Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans le QG.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Jimmy. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel qui s'appelle Gonel Breton, qui est un ancien militaire des forces spéciales, qui est aujourd'hui aventurier. Il va nous raconter sa partie à l'armée. Il va nous raconter le tour du monde qu'il s'apprête à faire, à la fois en vélo jusqu'au Japon d'ici. Exactement. Et après, il va prendre un bateau à la rame. Ensuite, il va reprendre son vélo aux États-Unis. Il va faire un vrai tour du monde en vélo et à la rame. On va en parler juste avant. De raconter quelque chose. On a NordVPN qui est notre partenaire. Alors, on voulait leur prendre une petite minute pour vous expliquer ce que c'était avant de commencer l'émission. Qu'est-ce qu'un VPN déjà ?
C'est un réseau privé virtuel, Guillaume, qui permet de naviguer sur Internet en toute confidentialité et en toute sécurité, évidemment. Et en gros, personne ne peut voir ce que tu fais sur Internet ni où tu vas sur Internet.
Et on peut aussi changer sa localisation parmi une soixantaine de pays pour accéder à des sites de streaming, par exemple. Et si vous partez en vacances dans un pays étranger, vous pouvez vous localiser en France pour regarder vos vidéos quand il y a des problèmes de géographie, par exemple sur Netflix, pour regarder ses séries, même quand on est à l'étranger.
Vous pouvez vous connecter sur des réseaux publics. Personne, je dis personne, vous ne pouvez récupérer, pardon, vos mots de passe, etc., etc., etc.
Et ça marche pour les ordi, mais ça marche aussi pour les tablettes, même pour les téléphones. Et on a un truc pour vous, Jimmy. Je vais te demander de regarder la caméra en bas pour nous annoncer ça.
Une petite offre pour toute souscription à l'abonnement de 2 ans, avec déjà 68% de réduction,
messieurs, dames.
C'est énorme ce qui se passe. Vous aurez en plus 4 mois supplémentaires.
C'est énorme, 4 mois.
Gratuit, free en anglais. En plus, vous pouvez être remboursé au bout de 30 jours si ça ne vous va pas. C'est pas magnifique tout ça? Regardez-moi comme ça, comme c'est beau. On vous met le lien, évidemment, en description de la vidéo. Et vous allez sur le site et vous rajoutez le code LEQG. Voilà.
Allez, c'est parti. On commence l'émission maintenant. Perfect. Et bienvenue dans le QG, tout le monde, toujours avec Jimmy Labeu.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je m'applaudis.
Applaudis-toi dans ce grand studio.
Voilà. Et puis on plaît, évidemment, monsieur.
Mais je m'applaudis
on
aussi.
On peut applaudir.
Soyez les bienvenus, tout le monde. Aujourd'hui, émission exceptionnelle avec Gonel Breton, qui est notre invité. Ancien membre des forces spéciales. Voilà. Seul bienvenu. Et aventurier qui t'apprête, donc, qui t'apprête à faire le tour du monde.
Oui, c'est ça, un tour du monde.
En à la rame et en vélo.
En vélo et à la rame.
En vélo, c'est un son.
Et encore en vélo et à la rame, en fait, on l'explique.
Tu fais ça pour une association qui s'appelle Rien que du bonheur.
C'est
ça. Que tu as d'ailleurs sur ton
le logo. Donc c'est toute une symbolique aussi, c'est un attrape-rêve pour soutenir les blessés de guerre.
Et les gueules cassées.
Moi-même étant gueule cassée, voilà, le but c'est de réaliser des défis sportifs. Donc là, ce coup-là, c'est à l'extrême. Et l'idée c'est de, voilà, comme l'indique ce symbole, donc c'est dire aux blessés, voilà, de s'accrocher à leurs rêves et de se fixer des objectifs intermédiaires à travers des défis sportifs pour se reconstruire dans la vie et leur dire, voilà, on garde le cap et on va de l'avant tous ensemble et on va essayer de créer un mouvement mondial pour les blessés de guerre, pour les inspirer et ça va envoyer.
Pour comprendre comment t'es arrivé là, comment tu te retrouves à avoir envie de traverser l'Atlantique à la rame seul, comment t'es arrivé et t'as envie aujourd'hui de vivre des expériences comme ça, on va reprendre toute ta vie, si tu veux bien. On commence rapidement par un CV quand même et ensuite on va attaquer parce que t'as plein d'anecdotes et c'est important pour comprendre aujourd'hui où il en est.
Évidemment. Alors, première question. Nom, prénom, âge, s'il te plaît.
Donc, Gwenaël Breton. Et je vis au Pays Basque. Donc, le Breton basque, il n'est même pas basque, parce que je suis né à Angers, dans le Maine-et-Loire.
L'endroit le plus dangereux où tu as été dans ta vie?
Je dirais que c'est quand même en Afrique, oui, avec le travail.
Vous verrez que Gonel n'est pas très bavard sur sa carrière militaire. Il va nous raconter juste son premier combat, ce qu'il a vécu, son accident, pour expliquer pourquoi aussi tu es gueule cassée, etc. Et son dernier combat aussi, pourquoi il a arrêté, il a eu envie d'arrêter, de faire autre chose, etc. C'est important de bien comprendre. Mais c'est vrai que tu n'es pas très bavard là-dessus, parce qu'on t'a appris à ne pas trop parler, parce que ce n'est pas très bien vu quand on parle beaucoup de ça aussi.
C'est une culture, oui. C'est une culture de... Voilà, ce sont des missions un peu spéciales. Voilà, ce n'est pas clandestin, c'est spécial, mais voilà, on est, voilà, l'humilité fait partie aussi, fait partie de ce métier et c'est important.
La distance la plus longue que tu as parcourue en courant?
En courant
Tokyo, Bruxelles.
Non, je crois que c'est 200 km.
Attends, 200 km en une fois?
En une fois, en non-stop. Donc voilà, ça devient assez commun dans le monde de l'ultra-trail, donc de la course en montagne, où c'est la gestion de l'effort, où on apprend à s'alimenter, à s'hydrater.
Parce que tu fais des courses, toi, qui s'appellent Ironman, enfin on appelle ça comme ça, Ironman, tu fais des doubles Ironman?
C'est une épreuve que j'ai inventée. Donc justement, 200 km, c'est l'épreuve la plus longue que j'ai fait dans le cadre d'une compétition. Après, ce que j'aime bien, moi justement, je suis sorti un peu de ça. Après mon accident, bon, on en parlera de toute manière. Et ce que j'aime bien, c'est justement inventer, créer mes défis et les réaliser. Donc voilà, donc du coup, j'ai effectivement créé un double Ironman où j'ai doublé les distances d'un Ironman.
Explique-nous ce que c'est que la distance d'un double Ironman. Ce que c'est.
Un Ironman normal déjà.
Mais dis-nous le double.
Donc un Ironman, bah, le double du coup, bah, c'est le double d'un Ironman. Donc j'ai fait 8 km de natation, 360 en vélo, donc au Pays Basque.
Énorme.
Et après, c'était 84 km de trail en terminant au sommet de la Rune, qui est une montagne mythique au Pays Basque.
Tout ça le même jour.
Et tout ça, j'avais mis 36 heures.
Tout ça, mais c'est incroyable.
Ça, 36 heures.
Il s'arrête pas en fait. C'est-à-dire qu'il fait 360 bornes à vélo, 84 km.
Ah ouais, je pensais que c'était plus sur un
net. 84 km en courant, c'est le double d'un marathon. Ouais. C'est deux marathons d'affilée.
C'est deux. Oui, ouais. C'est ça. Mais en fait, c'est un double Ironman. Donc ça, c'est une épreuve que j'ai inventée. Bah, l'avantage de créer mes épreuves, c'est que c'est quelque part. Mais...
C'est que c'est lui le meilleur à chaque fois.
C'est moi le meilleur à chaque fois.
Alors, donc, pour comprendre ta vie, t'as grandi dans un quartier chaud, un peu, tu me disais.
Peu.
Et tu étais un peu le chef de bande dans le quartier, c'est ça?
On va dire chef de bande, je vais pas avoir la prétention de dire que j'étais le chef de la bande, mais on va dire j'étais un peu, j'étais pas le dernier à faire les conneries. Et oui, c'était un quartier dans une ZUP à Angers. Voilà, quand on est dans ce genre de quartier, on sait pas trop ce qu'on va faire dans sa vie. Et au final, j'ai très rapidement trouvé ma voie dans l'armée. À 16 ans, j'ai passé mes tests de une préparation militaire parachutiste. J'ai sauté en parachute et j'ai déjà, en 1996, fait mes premiers tests au premier PMA pour essayer de rentrer dans les forces spéciales.
Et donc, tu rentres à l'armée à 18 ans, 22 ans dans l'armée, tu as fait 11 ans dans le génie, 11 dans les forces spéciales, donc grosse carrière. Et à 28 ans, tu as le suicide de ta maman, qui t'a marqué aussi. Et tu m'expliquais que c'est à partir de là où tu t'es mis beaucoup dans le sport.
C'est ça, c'est la seule...
Plus que les forces spéciales encore, parce que tu étais déjà dans le sport, entre guillemets.
Oui, je faisais pas mal de sport déjà et je gagnais quelques compétitions. Et en fait, il y a eu ce facteur en déclenchant. Ça, c'est à mon goût et je pense à mes yeux, c'est une triste vérité. Donc, maman s'est bien suicidée en se défenestrant du cinquième étage de mon quartier, là, justement, à Angers. Et depuis, je pense que c'est le mal par le mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes blessées, au final, qui œuvrent comme ça. Ça veut dire... Et de cette douleur-là, je me suis procuré d'autres douleurs qui m'ont permis d'oublier, enfin d'oublier non, parce qu'on ne peut pas oublier malheureusement, mais qui m'ont permis de m'élever. C'est-à-dire, c'est de tes faiblesses, fais ta force. Et quelque part, j'ai fait de cette faiblesse une force. Et avec ce suicide qui était extrêmement douloureux, parce que dans tous les cas, on ne s'y attend jamais, hein, malheureusement. Une maman, c'est sacré. Et au final, ça m'a permis de m'élever. Et justement, c'était une période de ma carrière. On m'a dit, écoute, soit tu peux tenter ta chance pour faire sportif de haut niveau, parce que je commençais à gagner des compétitions, soit tu peux tenter ta chance dans les forces spéciales. Je me suis dit, voilà, le sport, c'est une passion. J'ai pas envie que ça devienne une contrainte. Donc, j'ai gardé cette passion. Et du coup, j'ai tenté ma chance dans les forces spéciales. Et le fait d'être... Voilà, il n'y a pas que le sport, évidemment, parce que la sélection des forces spéciales, ce n'est pas que le sport, c'est assez rude. Mais finalement, le sport m'aura permis de m'élever. Donc voilà, c'est ça part de tout ça.
Et tu arrives dans les forces spéciales, premier combat, zone sahélienne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu vis le truc?
Donc déjà, premier combat...
Tiens, on voit une photo de toi à l'époque, c'est ça, hein?
Voilà, j'étais...
Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans les forces spéciales.
J'étais un peu plus jeune, oui. Donc, du coup, elle est jolie, cette photo.
Elle est jolie, cette photo.
Je suis libre.
Ce sera sa photo Tinder.
Non, du coup, oui, effectivement, donc, premier combat, c'est comme tout militaire, on en rêve. Monte dans l'hélicoptère. Donc, c'était un assaut vertical de nuit. Donc, voilà, imaginez le silence dans l'hélicoptère, la pression qui monte. Et là, en fait, on nous fait... 3 minutes, donc on est avec nos visions nocturnes. Et finalement, c'est les 3 minutes, on sait à l'entraînement, quand on nous dit 3 minutes, c'est super long. Mmh. Et, sauf que cette fois, il nous fait 3 minutes et peut-être 30 secondes après, voilà, l'hélico qui... Voilà, vu que c'était de nuit, en plus, on se fait tirer dessus à la mitrailleuse gourde, on va utiliser ce terme, que tout le monde comprenne. Donc on se fait tirer dessus, donc l'hélico, il doit poser un peu en urgence de nuit. Et là, du coup, on se retrouve tous un peu entassés les uns sur les autres. Mais par contre, il faut sortir rapidement. Donc après, on se met au sol. La mise à terre. On forme la ligne. Tout de suite, on se plaque au sol parce que ça nous tire dessus. L'hélico, il décolle. Mais en fait, à peine on a posé, ça riposte. Là, ce premier combat, justement, c'est ce qui est un peu paradoxal. Justement, peut-être qu'on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ça veut dire que nous, on a des silencieux. Ça ne fait pas spécialement trop de bruit. Sauf que, bah, du coup, on entend les balles qui sifflent. Et on voit l'hélicoptère Tigre qui envoie du canon de 30 avec des traçantes. Il y a un véhicule qui explose en face. Et nous, avec nos visions nocturnes, mais dans ce véhicule, il y avait des munitions. Donc, ça fait, comme je disais, ça fait Jean-Michel Jarre. Voilà, c'est le son et la lumière. Ça part dans tous les sens. Et là, on se dit, OK.
Donc là, ça fuse de partout, tu dis. Le pick-up en face explose.
En fait, on ne s'y attend pas. C'est difficile à expliquer. Ouais, en termes d'émotion, c'est limite, t'es content parce que t'y es, mais en même temps, tu prends conscience que tu peux mourir. Et donc, du coup, psychologiquement, mais tu dois pas bloquer. Tu dois réagir, tu dois comprendre, tu dois réagir, et surtout réagir très rapidement parce que ça tient qu'à la vitesse d'une balle.
Donc, premier combat, et ensuite, quelques temps plus tard, tu fais un stage de survie. C'était quand, ça?
J'étais déjà dans les forces spéciales. Donc, c'est un stage de survie qui s'est déroulé dans le bushcraft en Afrique. Voilà. La petite anecdote, c'est que il cherchait un volontaire pour tester ce stage.
Pour
l'armée. Et au final, je m'étais porté volontaire parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais.
D'accord.
Ça se passait dans un pays qui était anglophone. Du coup, j'ai pas appris l'anglais parce que j'ai vraiment survécu, parce que je comprenais rien à ce que les instructeurs me disaient. Et c'était assez anodin et quelque part encore une mission... homme du monde que je considère avoir eu la chance d'avoir, même si c'est dur, j'ai perdu 12 kilos, ouais, c'est quand même assez difficile. Mais après, une expérience homme du monde qui était géniale, quoi. Dormir à même le sol avec un feu, avec les scorpions qui sortent du feu, les hyènes qui ricanent autour, les lions, on nous explique les dangers, l'hippopotame qui est capable de faire 100 km la nuit. Donc si tu fais Et voilà, attraper des vipères du Gabon, donc la vipère la plus venimeuse au monde. On nous apprenait à attraper des serpents, à les relâcher, les reprendre.
Donc, à savoir que ce serpent-là, la vipère du Gabon, tu te fais piquer, 30 secondes après, tu meurs.
Oui,
c'est le serpent le plus venimeux au monde. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de faire une story. Ouais. Tu as le temps de faire deux stories sur Insta.
Pourquoi tu parles de story, Victor?
Mais tu te rends compte, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça va. Ah ouais. Et vous, ils vous apprennent à les attraper.
C'est ça. Et au départ, on ne sait pas trop. Au final, on apprend un serpent. Et en fait, on est en survie, donc on apprend à attraper les serpents pour les manger. Et c'est super bon, d'ailleurs.
D'accord.
Donc, c'est super bon.
Petite vipère du Gabon avec des frites, sauce au poivre. C'est parti.
Je conseille plutôt avec des grosses sauterelles.
tu te retrouves avec deux allumettes.
Dans ce stage survie, justement, on nous apprend à faire le feu, justement, avec un bois dur, un bois tendre. En fait, c'est un bois filandreux. Donc on nous apprend à faire du feu et on nous donne comme mission pour faire cuire un œuf. Et pour faire cuire cet œuf, il faut faire un feu et tu fais cuire l'œuf. Et le lendemain matin, on va vérifier si tu as vraiment réussi à faire ton feu.
Ils te donnent un œuf pour vérifier si tu as réussi à faire
ton feu. Voilà, il faut les faire cuire l'œuf. En fait, trois heures à essayer de faire mon feu. J'avais réussi en m'entraînant. Ce jour-là, alors que je suis tout seul dans le bushcraft, et ce jour-là, avec plein d'ampoules aux mains, je commence à avoir des crampes et tout. Impossible de faire le feu. Et on nous donne quand même en secours deux allumettes. Donc, pour pouvoir allumer ce feu. Donc, du coup, je prépare l'amadou. L'amadou, vous savez ce que c'est? L'amadou, c'est comme de la paille. Okay. Voilà, un truc qui
est
facilement inflammable. Pour faire, une fois que tu as fait ta braise avec tes deux bouts de bois, tu mets ta braise dans l'amadou et ça prend feu. Donc, nous, on prenait la bouse d'éléphant. Donc, du coup, je craque la première allumette et là, crac. Je dis, oh mon Dieu, c'est pas possible, je vais mourir, il y a les lions autour. Et là, je prends la deuxième allumette, et là, la deuxième allumette a fait comme à la télé, comme dans les dessins animés, ça fait. Et là, voilà. Donc là, du coup, pas le choix, obligé de monter dans un arbre. Et j'ai passé la nuit dans un arbre, et du coup, on s'est bien foutu de ma gueule, parce que j'ai dormi dans un arbre en entendant les lions et les hyènes toute la nuit.
Alors, en parlant de feu, on va en faire maintenant. C'était prévu plus tard dans l'émission, mais on va inverser. On va essayer de mettre le feu sur des boîtes de conserve, avec plein de manières différentes. La manière de faire du feu au Moyen-Âge, donc vraiment, on a acheté une besace médiévale, vraiment des trucs de gueux. Et jusqu'à celle du futur, on va essayer de faire du feu ensemble, de plein de manières différentes, pour savoir comment survivre, etc., qu'on a trouvé sur Internet. C'est parti. Voilà un peu par ordre chronologique, les manières de faire du feu. La besace du Moyen-Âge,
voilà.
Avec laquelle tu peux te promener. Ça, c'est un briquet qui avait les poilus.
La Première Guerre mondiale.
Exactement. En 14-18. Dans les tranchées. Tu vas comprendre pourquoi. Je ne sais pas si tu connais.
Non.
Ça, c'est les allumettes qui ont été inventées juste après la guerre, qui s'allument 50 000 fois chacune. Vous allez voir, c'est hallucinant. Ça, c'est de la débrouille, comment on pouvait faire du feu. De manière solaire, mais d'abord, on va commencer par la manière du Moyen-Âge. Est-ce que tu sais comment ça marche?
Pas du tout.
C'est un vrai kit. Il faut essayer de faire. Alors, c'est pas facile.
Avec un silex.
On va essayer de le mettre là, avec ça contre ça. OK? Tu es censé pouvoir faire des étincelles en tapant un peu les deux.
Donc, c'est un silex.
Imagine, c'est un stage de survie.
Un silex, c'est du fer. Et ça, c'était le truc qui est prévu pour.
Oui, c'est prévu pour. C'est, tout, c'est vraiment le kit. Et après, tu as une sorte de bûche en cire que tu mets par-dessus pour enfin, tu...
Ah
putain,
c'est presque. Il arrive beaucoup mieux que tantôt. Hein. On n'a rien fait pendant 5 heures.
Putain, la vache.
Ça va pas s'enflammer, mais...
Non, mais je crois que c'est pas de super qualité, mais...
On voit ça, ouais.
Putain, mais attends, il arrive quand même beaucoup plus que nous, quoi. Avec des morceaux de silex qui brûlent, quoi.
C'est génial, hein.
Eh bien,
je me suis un peu taillé les doigts aussi avec.
Ah merde.
C'est du silex
pour... Tu pourras le ramener si tu veux.
Ah, c'est génial.
Ça, tu connais pas ça?
Non.
Ça, c'est énorme, c'est les briquets, donc des poilus. Pourquoi ils avaient ça? Il y a un petit crochet pour attraper la mèche. En fait, ça permet de mettre le feu.
Ça, c'est stylé, par contre.
Merde, attends. Bon, oui. En gros, je sais pas si tu vois, ça fait de la braise. Tu vois? Et en fait, ça permettait dans les tranchées de pas se faire repérer pour pas qu'il y ait de flammes. Et du coup, en fait, ça leur permettait de pas avoir de flammes, du coup, et d'allumer leurs cigarettes comme ça, tu vois. Ça restait rouge. Ils le mettaient dedans, ils mettaient leurs cigarettes. Comme ça, ça se voyait pas. Ils mettaient leurs cigarettes, ils fumaient comme ça.
Ok, d'accord, dans les tranchées.
Briquet, dans les tranchées, exactement, à l'époque. Ça, il faut que tu dévisses. C'est les allumettes, donc tu dévisses tout. Tu vas sortir le petit truc.
Ouais, sors le petit truc.
Et donc ça, c'est une allumette que tu dois frotter dans... Il y a une encoche de l'autre côté. Voilà, et apparemment, ça marche 50 000 fois.
Il va allumer l'autre. Ah, voilà.
Ah,
voilà.
Ah, c'est pas mal. Ouais.
C'est pas mal, ça.
Ouais. C'est stylé, ça.
C'est étanche, etc. Ça se met au porte-clés.
Donc, 50 000 fois, ça peut...
C'est marqué sur le site, 50 000 fois. Voilà.
C'est génial, ça.
C'est pas mal, hein.
Trop bien.
Ensuite, ça, tu sais comment on fait du feu avec ça?
Oui.
Avec une pile. Vas-y, je te laisse.
Ouais, en fait, c'est juste.
Il faut que tu arrives à allumer cette boîte de conserve, enfin, ce qu'il y a dedans.
Donc, ça fonctionne justement dans les pays humides. Donc, en fait, il suffit de relier les deux contacts et avec un peu de fil de fer, comme ça, vous voyez que ça va prendre. Bon, après, je vais pas allumer, mais vous voyez bien que ça va prendre assez facilement. Ça.
Donc, voilà, donc ça nous permet de mettre le feu.
Parce que en Guyane, on a nos appareils de transmission. Donc, du coup, avec une pile, on peut faire ça.
Ça, c'est ce que c'est?
Boîte de sardines.
Et ça, c'est une mèche de balai. C'est le balai qu'on a tous chez nous. Ouais. Tu savais qu'on pouvait faire une lampe à huile avec? Je ne savais pas. Avec une boîte de sardines, en fait.
Je ne savais pas.
Apparemment.
Ah, je déteste ça en plus.
Apparemment. Bon, il faudrait mettre la mèche dedans, etc.
Et comment tu fais après?
Et en fait, tu la trempes dans l'huile. Et apparemment, l'huile de sardine...
Ah, mais il faut allumer.
Apparemment. Non, mais ça fait une lampe à huile.
Ah, OK.
Une lampe à sardine.
Attends. Fais gaffe, hein.
Tac.
Ah, ouais. Ah, ça crame, quoi.
Et en fait, apparemment, ça peut tenir avec la flamme. Il faut le coincer dedans. Il y a une manière de le faire. Mais si jamais vous vous retrouvez en galère,
ça
fait comme une bougie, une lampe à huile. Et en fait, l'huile va couler dans la mèche et ça va venir comme ça.
C'est comme la cire.
Ça veut dire qu'elle se consomme.
Et ça consomme
en fait, elle reste en fait.
Et ça peut rester comme ça. C'est pas mal quand même.
C'est bien ça, c'est pratique ça.
Parce qu'il reste. Si jamais t'es en survie, t'as plus de lampe.
Et t'as des sardines.
Et t'as une lampe, t'as une boîte de sardines, ça fonctionne quand même.
Ça fait chauffer les sardines en plus.
Ça fait chauffer les sardines en plus. Ça, c'est un truc solaire. Tu mets une petite mèche de papier très particulière dedans. Et en fait, ça permet de... Tu le diriges vers le soleil. Alors, on est en intérieur, évidemment, ça ne marchera pas. Mais tu le diriges vers le soleil, ça s'allume en 5 secondes. C'est pas mal aussi, ça.
Ouais.
Après, si tu as l'espace pour avoir ça, tu as l'espace pour avoir un briquet. Vas-y, dis-moi
ça. Ça, j'aime bien. Ça, c'est très futuriste, j'ai l'impression. On voit ça souvent dans les films, non? Tu vois, tu as un gros... Là, il est plus petit. Je ne sais pas si on voit. Un petit espace. Et hop là. Et ça fait le petit trou.
Il a eu peur.
J'ai tout brûlé. J'ai vraiment eu peur.
En fait, c'est le système
qu'on avait pour les barbecues. Tu fais ça sur ton corps, à mon avis. Pas à l'aise. Hein.
Et alors ça, c'est un briquet. C'est le briquet le plus puissant du monde.
Qui
apparemment fait une flamme assez perforante. On l'a pas essayé. Et qui peut permettre, en 5 secondes, alors c'est ce qu'ils annoncent sur le site, de trouer une canette qui est en aluminium. Donc ça va être quand même très fort. Est-ce que tu veux essayer?
Vas-y. Et hop!
Vas-y.
Ah ouais, dis.
Oh là là!
Tout pile 5 secondes.
Ça a troué la canette!
Ouais.
Oh, putain, énorme. Donc ça marche. Ça marche. Comment voilà ça pour, les différentes manières de faire du feu. Donc en gros, pour comprendre un petit peu ta carrière, t'as un accident dans les forces spéciales.
Donc c'est un saut d'hélicoptère de nuit, donc un saut d'entraînement opérationnel au Sahel. Donc voilà, un petit peu amoché. Et voilà, donc du coup, depuis cet accident, je suis devenu un membre des Gueules Cassées. Donc voilà pourquoi Gueules Cassées, mais le sourire quand même, comme ils disent, c'est leur devise. Et donc, du coup, c'est à ce saut de nuit, le parachute s'est bien ouvert.
Tu étais parachutiste, hein, pour expliquer.
Donc, j'étais à cette période, j'étais parachutiste, mais en parachute normal. Et justement, je suis devenu chuteur opérationnel après et contre-terroriste aussi après. Mais à cette période, j'ai sauté en tandem opérationnel.
Donc, en gros, tu es en saut en parachute, vous êtes à deux en tandem.
Voilà. Donc là, à ce moment-là, je ne suis que passager. Donc, on saute de nuit avec les visions nocturnes d'un hélicoptère à 4000 mètres. Et au final, le parachute, il s'ouvre bien, tout se passe bien, sauf qu'à l'atterrissage, vu que c'est de nuit et on ne voit pas très bien, le pilote et moi-même voyons une autre voile qui ne passe pas très loin. On perd un peu les repères. Et au final, normalement, on atterrit face au vent pour ralentir un peu. Et là, on a atterri à pleine balle avec le vent dans le dos et la tête... Normalement, on lève les jambes, on se laisse traîner un peu sur la gaine. Et là, au final, les pieds ont touché le sol et ça a fait piquer tête. C'est-à-dire que les jambes ont touché d'abord. Moi, j'avais le gilet pare-balles et mes visions nocturnes et le casque. On est chargé à 160 kilos, donc vous imaginez.
Donc, il y a une photo de toi, si vous voulez bien, en régie, envoyez les copains. Une photo de toi chargée. Donc, en fait, en gros, vous avez un énorme paquet. On voit sur l'image là. Et tu sautes donc avec un mec derrière, plus un paquet.
Voilà, plus un paquet qui est chargé, plus mon gilet pare-balles, plus mes chargeurs, les munitions. Donc, c'est bien un saut d'entraînement opérationnel. Et au final, donc, j'ai les pieds qui crochent, la tête, donc en pleine vitesse en plus, la tête qui pique par terre avec mes visions nocturnes qui me rentrent dans la tête. Donc, c'est là que justement, je me retrouve ouvert ici. La mâchoire après qui est un peu décalée. Et surtout, j'ai C7, D3, D4, D5 de fracturé. Donc, et là, à ce moment-là, je tombe inconscient. Et là, sur ça, justement, une petite anecdote. C'est-à-dire, on m'a mis deux doses de morphine. Enfin, une au moins, la deuxième, il me semble. Et au final, je suis un peu dans les vapes au sol. Et puis, j'ai mon capitaine, donc désormais un très bon ami aussi, qui arrive et qui donc mon chef. Et qui dit si ça va et tout ça. Enfin, voilà, je suis un peu dans les vapes. Je commence à me... Je me demande ce qui s'est passé et puis je commence à lui dire « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ?» En fait, là, il pense au pire, un peu comme dans les films. Ouais, dernière doléance, moi, je me vois mourir. Lui, il me voit avec la gueule comme ça, voilà. Un peu dans le coma, plus bouger, j'ai mal au dos. Et au final, je lui ai dit « Est-ce que tu veux pas me sucer, quoi ?» Donc voilà, et en fait, tout ça, je pense encore une fois, c'est un état d'esprit, c'est... Même dans le dur, on est un peu dans l'humour, dans la dérision, et ça a apaisé tout le monde a rigolé. Et au final, mais bon, je pense qu'il y avait quand même l'effet de la morphine, parce que j'aurais jamais demandé ça en temps réel à mon chef, quoi. Donc c'est une anecdote, je pourrais te dire que j'ai demandé ça à mon chef. Mais,
c'est bon.
Et je m'en vante.
Et au final, c'était au début des forces spéciales, donc tu as réussi à avoir une carrière après, malgré les...
Donc, ça, c'est arrivé en 2012. Donc je suis arrivé fin 2008, début 2009... dans les forces spéciales. Donc ça, c'est arrivé en 2012. Et justement, ce qui m'a sauvé, c'est justement de faire pas mal de sport avant. Et le chirurgien, justement, m'a dit la meilleure chose à faire pour se reconstruire, c'est de marcher en montagne parce que les jambes, c'est ce qui tient ta colonne vertébrale. Nos jambes sont un peu les amortisseurs de notre colonne vertébrale, de notre corps. En fait, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Ça veut dire que même avec le corset, je marchais, j'allais marcher. Je me suis vu monter la rune avec mon corset. Donc ça, je ne devrais pas le dire. Mais voilà, donc j'ai quand même fait pas mal de sport. Et le fait de se remettre rapidement en sport, ça m'a permis de revenir dans le match. Et du coup, j'ai eu la chance justement de ne pas avoir de séquelles, de grosses séquelles à la colonne. Et du coup, de revenir dans l'opérationnel.
Et alors, tu as eu ton dernier combat aux forces spéciales?
Le dernier combat, au final,
qui s'est mal passé, du coup.
Qui s'est très mal passé, effectivement. Et encore une fois, on a eu de la chance. Il y a eu 3 blessés graves. Et quelque part, c'est le troisième facteur déclenchant qui m'a donné encore plus l'envie et la détermination d'aller au bout de ce tour du monde, d'aller au bout de la concrétisation de ce rêve. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment quelque chose de fort. Ça, on dit, il y a le blessé qui, lui, est physiquement, il est diminué. Et quelque part, voilà, on est comme des sportifs de haut niveau dans les forces spéciales. Et du jour au lendemain, sa vie a basculé, quoi. sa vie a basculé. On se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à l'avenir? Et du coup, je veux donner cet exemple et leur dire, tout est possible, tout est réalisable. Et en fait, à l'extrême, je veux réaliser ce tour du monde en vélo et à la rame. Et quoi qu'il en coûte, en tous les cas, c'est un peu un combat personnel.
Détermination, elle
est... Mais c'est ce que je veux leur dire. Voilà, lâchez rien les mecs et puis... vous allez y arriver et moi je vais faire un tour du monde. Alors que en 2012, il y avait le chirurgien, il me dit voilà, peut-être que vous allez jamais remarcher et peut-être que pour vous c'est fini. C'est pour ça que cette opération s'appelle garder le cap.
Allez, tu vas nous montrer ton bateau et ton vélo. Tu veux bien pour nous expliquer comment tu vas faire le tour du monde. Maintenant que tu nous as expliqué pourquoi, c'est parti, on va visiter. Alors, ça, c'est ton vélo, du coup, c'est ça?
C'est un vélo à trois roues.
C'est clair.
Un trike. Alors, vous savez pourquoi j'ai choisi
t'avais
un vélo comme ça?
Bagages, non.
Du coup, vous avez déjà roulé une heure déjà sur un vélo normal.
Ça fait mal au dos?
Ah, ça fait mal au cul. Ouais. Mon choix vers ce vélo-là, bah, c'était d'être confortablement assis. Y rajouter un panneau solaire pour s'abriter.
Ça, c'est un panneau solaire?
De l'appui. Ouais, c'est panneau solaire. Donc, du coup, c'est un vélo trike, donc couché, électrique et solaire, ce qui permet de recharger et lui donner une autonomie de 400 km par jour.
Donc, c'est une vraie cabane à moteur électrique, t'as une aide électrique.
Une assistance électrique donc, qui me permet d'allonger les distances. Et en fait, la particularité de ce vélo, bah, du coup, celui-là, il est devenu unique au monde. On a rajouté une ossature pour pouvoir dormir n'importe où.
Tu vas dormir dans le lit, dans le vélo?
Tu vas dormir dans mon vélo.
Jusqu'au Japon?
Jusqu'au Japon.
Et après, tu prends le bateau et tu redormiras aux États-Unis?
Et aux États-Unis, c'est pareil, la traversée avec ce vélo, avec des blessés et des vétérans américains qui suivront, on se fait un relais.
Tu t'attends à l'arrivée en bateau?
Voilà.
Et donc, tu pars de Bayonne en France, tu vas rouler à vélo, tu arrives jusqu'au Japon, ensuite, tu prends un bateau.
Mon bateau.
Qu'on va voir juste après. Tu vas jusqu'à San Francisco et ensuite, tu reprends ce vélo-là qui t'attendra jusqu'à côté de New York, à Bayonne, une ville qui s'appelle Bayonne à côté de New York.
C'est ça, exactement.
Et ensuite, tu reprends le bateau pour revenir jusqu'à Bayonne. Voilà.
Donc, aux États-Unis, c'est un peu comme le Tour de France avec plein de monde derrière. C'est l'idée, c'est de, voilà, c'est de faire un mouvement. C'est
un peu Forrest Gump qui arrive et qui, voilà, etc., de lancer un truc de solidarité.
Je vous montre la transformation.
Vas-y. Donc, tu t'allonges, etc. Juste pour moi, il y a des bâches. Tu veux nous montrer en configuration de nuit?
Déjà, je pense que le mieux, c'est que tu t'installes.
Ça, tu vas jusqu'au Japon.
Je suis sûr qu'on est bien dedans, non?
Et donc, attends, du coup, jusqu'au Japon.
Par rapport à un vélo normal, est-ce qu'on est pas mal?
Bah, oui, jusque-là.
Voilà. En fait, je comprenais pas sur le bord de la route. Parfois, tu vois des mecs avec des vélos allongés. Et en fait, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. En fait, c'est que tu peux faire des grandes distances.
Tu peux faire des grandes distances. Et surtout, si tu rajoutes une assistance électrique. Du coup, bah, après, bah, quand tu es ici, tu comprends que c'est tout confort. Tu es abrité avec ton toit qui te sert de panneau solaire pour recharger tes batteries. Ici, tu as un téléphone pour rajouter de la musique. Je fais ma navigation. Voilà, un peu comme Wise. Vu que j'ai l'électricité, je peux recharger mes appareils ici. J'ai plein de matériel, style Mavic Air 2.
Ah oui, des drones. Alors, on va pouvoir te suivre pendant au moins un an. Du coup, en direct, vous pourrez suivre les lives, etc. Je vais vous mettre le lien du site en cliquable en dessous de la vidéo si vous voulez le voir. Comme ça, vous pourrez suivre Gonaël, du coup, dans l'aventure, etc.
Donc, vous voyez, même en roulant, je peux me protéger du vent, parce que bah, quand on prend du vent, bah, forcément, il va faire super froid, surtout s'il fait déjà froid en température. Et l'avantage de ça, qu'à la double utilité, ça peut me faire un pare-brise aussi. L'idée, c'est au lieu d'avoir une tente, c'est même si je suis fatigué, je veux faire une pause, je trouve pas d'endroit pour mettre une tente, mais là, même sur le bord d'un trottoir, je peux le transformer et le mettre en mode lit. Donc ça, c'est l'innovation et c'est ce qui le rend unique au monde, ce vélo.
C'est un peu petite cabane, un peu genre camping-car, quoi. Tu pars solo.
Donc, ça, justement, c'est
on te laisse le passer en mode nuit. Putain, impressionnant. Ouais, impressionnant. Donc là, tu vas y passer combien de temps à peu près? Tu sais ou pas?
Donc là,
grosso modo, dans ton tour du monde?
J'estime en vélo, 6 mois. En vélo et 6 mois à la rame.
Oh donc,
c'est une estimation.
Énorme.
C'est une estimation.
Merci pour la petite présentation du vélo. Tu nous montres le bateau?
Ça peut surprendre. Allez.
Allez, c'est parti. Il est sur le parking, le bateau. On va voir ce que ça donne. Allez.
Ah oui, donc il est gros.
Et voilà la bête.
Bel engin. Très.
Attends, combien de taille il fait? En mètres?
8 mètres de long.
8 mètres.
8 mètres de long.
Pour enlever les masques, on est dehors, ça rond.
Allez. Environ 600 kg à vide, mais quand je vais partir, il fera environ 1,2 tonne, 1,3 tonne.
Une tonne 3 à la main.
Voilà.
Pendant tout le trajet.
Pendant tout le trajet.
Il n'y a pas de moteur du tout dessus? Il n'y a pas d'hélice de secours?
Regardez, non, il n'y en a pas, non. Traverser l'Atlantique, juste pour traverser l'Atlantique, c'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la partager de l'intérieur. Et du coup, ce moyen satellitaire me permet de partager et faire des visioconférences avec les enfants des écoles. Je me suis équipé pour ramener des images avec un drone sous-marin, un drone volant et tout ça, faire des montages vidéo.
C'est un beau petit visuel.
Et vous faire partager, vous emmener avec moi.
Et il a mis sur le bateau des flash QR codes.
Oui.
Ici, au cas où il croise un.
S'il y a un nageur qui passe,
qui a envie de scanner son bateau. Et alors là, c'est quoi du coup? C'est ton parcours entier, c'est ça?
Voilà, c'est le parcours en entier, ouais.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors ça, ce sont, non, ce sont des trappes, des ballasts, juste pour bien mettre de l'eau, des bouteilles d'eau, pour charger le bateau, pour qu'il soit beaucoup plus ancré.
Allez, Jimmy. Hop. Alors, ça fait un petit peu de sport aujourd'hui.
Alors, vous le trouvez toujours grand, ce bateau?
Bah, c'est vrai que quand on est dessus, ça paraît plus petit. Ouais.
Donc là, ici, il y a un banc avec des rails. Je mets mes rames et en fait, je rame comme ça. Donc l'avant, il est bien derrière, quoi.
Ah oui, c'est ça.
La lumière, la nuit, attire les poissons volants. Donc il tape contre le bateau, il s'assomme, et ce qui fait que ça fait de la nourriture, plus particulièrement ouais, il y avait des dorades. Bah, du coup non, les poissons volants, j'en retrouve ici là dans mon bateau.
Ah salut. Ils sautent. T'as plus qu'à les manger.
Je les mangeais pas, mais je prenais ma canne à pêche, je mets l'hameçon, et en fait c'était la pêche au canard. T'as les dorades là qui sautaient dessus. Mon bateau, il y a les coquillages qui s'accrochent, donc ça attire les petits poissons, et il y a toute la chaîne après jusqu'aux orques, j'ai vu des orques.
Ah ouais,
des trucs plus gros que le bateau. Cet endroit-là, c'est ma zone de rame. Mm-hmm. C'est aussi ma zone de pêche. C'est aussi là où je vais manger. C'est aussi là où je vais me laver. Donc je prends un seau et je me lave.
Ouais, ouais.
Et c'est aussi là que je fais mes besoins. Je suis désolé, c'est exactement où tu es. En plus,
il a chié juste là. Là.
Ah ouais. Non, en fait,
belle bouse.
Un jour, j'étais en train de faire mes besoins. Ça bouge. Hein. Et un jour, j'ai l'orque qui a sorti sa tête ici, il me regardait avec un œil. Même au milieu de l'Atlantique, on peut pas chier tranquille. Donc c'est un bateau de survie, de luxe. Et quand t'es là-dedans, t'es en sécurité. Je transforme l'eau de mer en eau douce. D'accord. Et pour ça, j'ai un appareil. Vous n'allez pas le voir.
Ça, c'est le dessalinisateur.
En fait, c'est le dessalinisateur qui me permet de faire 5 litres jour. Je ne fais pas les 5 litres jour, mais je le fais tourner assez régulièrement. Je bois mon eau qui est en bouteille et que j'ai stockée. Et je vais la remplacer par l'eau des dessalinisateurs.
La boule au-dessus, ça te sert à quoi? À passer la tête pour regarder?
Il faut que vous montiez. Hein.
Regardez ce
qu'il faut
se passe.
Faut que vous montiez.
On va passer la tête dedans. Ça te permet de voir la mer, quoi. Voilà. C'est une boule en verre, quoi.
Salut.
Donc en fait, quand t'es enfermé dedans...
Non, on peut rentrer à 3, Jimmy, en fait.
Vas-y, regarde. Vas-y. Comme quoi, c'est quand même assez spacieux.
Ah, c'est hyper bien. Voilà.
Chercher un appartement à Paris, les gars. Hein, un petit 2 mètres carrés, là.
Voilà. Voilà. Faire une traversée à 3, ça serait dur, quand même.
Merguez. Donc... Tu barbecue.
L'objectif, c'est bien de faire le tour du monde et d'y arriver. Donc, j'ai également une petite voile de secours. Au cas où je me fasse happer par un mauvais courant, mais j'ai les vents qui sont favorables, mais me réaxer et d'avancer. Quoi. Je me donne tous les moyens d'y arriver et vivant.
Et bon, avec toi. Et ben allez, on retourne dans le studio. Merci pour la visite.
Merci beaucoup. Voilà.
C'est vachement bien d'avoir vu pour comprendre un peu, tu vois, comment ça se passe. Mmh. Et on imagine vachement mieux maintenant. Ce que j'imagine, c'est que tu auras mal au dos pendant 6 mois là, dans le lit de ton vélo. Est-ce que tu vas avoir envie de dormir de temps en temps à l'hôtel?
Un vrai lit, quoi.
Je pense que je vais avoir un peu envie de. Ah, je vais en rêver quand même de ce vrai lit. Et quelque part, je peux l'avouer, je me suis fixé qu'une seule règle, c'est de m'en fixer aucune. Donc voilà, je ne vais pas m'interdire de. Voilà, peut-être pas dormir dans un hôtel, mais si on me propose l'hospitalité, encore une fois, c'est de partager et l'aventure avec les gens que je vais rencontrer. Et si on me le propose, si je suis en sécurité et que mon vélo est en sécurité, pourquoi pas, justement, ça sera encore une raison de plus de partager des images avec les gens qui suivront cette aventure. Donc voilà, c'est bien dans l'esprit de partage.
Donc c'est pour rien que du bonheur à l'association. Vous allez sur le site garderlecap.global pour le suivre. Tu vas faire des lives tous les combien de temps alors ?
Je pense à peu près toutes les semaines avec une agence de communication qui relaiera justement sur un site en français, anglais, espagnol et arabe.
D'accord. Et sur Insta, si vous voulez le suivre aussi, c'est l'association Rien que du bonheur avec un point entre chaque mot. Rien, point, que, point, du bonheur. Si vous voulez rajouter, vous pouvez aller sur le compte Insta directement pour donner un peu de la force. Si envoyer des vidéos, des photos, j'en sais rien. Toi, j'imagine que tu vas mettre un peu à jour la page à distance. T'enverras des trucs aussi.
Voilà, je vais envoyer...
En mer, en pleine mer, tu nous disais, sur le bateau.
C'est l'objectif, c'est-à-dire même dans des endroits les plus insolites. Et justement, c'était un peu mon métier aussi dans les forces spéciales. C'est-à-dire quand j'étais largué en parachute au milieu du désert, c'était d'établir aussi des communications avec les PC opérationnels. Et de ce fait, je transfère juste mes savoir-faire sur cette opération. Donc quelque part, c'est bien une mission que je vais réaliser pour soutenir les blessés de guerre cette fois. Donc du coup, c'est un peu comme je servir autrement.
On va montrer, tu as une petite vidéo là pour montrer un peu ce que tu as vécu sur le bateau parce que tu as déjà fait une traversée de l'Atlantique. En fait, c'est-à-dire que ses bras, ils ont déjà ramé.
Oui.
T'imagines, jusqu'aux États-Unis, c'est quand même assez fou. T'avais fait quoi comme trajet?
Non, c'était Sénégal, Guyane. Okay. Moi, j'avais mis 50 jours.
Regardez la vidéo déjà pour comprendre un peu le bateau en pleine mer. Yeah. avec toi. Non, ça donne envie de quand on voit les images. Hein.
C'est excitant, ouais, j'ai envie de savoir.
Paradis et Live.
Alors que oui.
Alors, tu vas traverser dans ce tour du monde des moments chauds, des moments froids. Tu disais moins 40. Tu disais que tout à l'heure, tu avais un sac de couchage à moins 50.
Ouais.
Est-ce qu'on peut faire une expérience avec toi? Alors, je ne veux pas vous cacher, ça a été une vraie galère à mettre en place cette expérience. C'est essayer de faire de la glace chaude. On va mixer le chaud et le froid, on va faire de la glace chaude. Sauf qu'en fait, pour vous dire la vérité, on a préparé des fioles, des pots de confiture avec cette mixture dedans. Il y a le moindre mouvement, mais vraiment, ça déclenche et ça se met à faire de la glace. C'est du liquide qui se transforme en glace tout doucement, enfin, assez vite quand même, mais c'est hyper joli à voir. Je vous propose qu'on aille dans le frigo. On ne va pas toucher à la fiole, sinon ça va se déclencher. On va dans le frigo tous les trois et on revient là juste pour voir le truc en direct, d'accord?
Allez.
Allez, c'est parti, on y va. Le frigo, la mixture est au fond.
Elle est là.
Oh, merde.
Non, ça va, ça va.
Non, c'est bon. Oh, le débile. Comment est-ce que tu veux faire? Tu veux la rapprocher?
C'est pas grave. Ouais.
Mais là-dessus, si jamais tu y arrives, mais à mon avis... Ouais, voilà.
C'était un truc fou?
Non, c'est bon.
Bien joué.
C'est quand même...
Réussite totale pour l'instant. Attention, c'est ça.
On va tout me faire péter au studio, là, non?
Attends, je mets mon image.
Et là?
Oh là là là, Gwen. Ça y est, ça se déclenche.
Ça commence.
Putain, on la voit. Alors, le problème, c'est qu'il y a la buée, du coup, ouais. Mais c'est impressionnant.
Donc, juste avec
l'air. Ah là là.
Juste avec l'air, ça, c'est...
C'est impressionnant à voir. Regardez comment ça cristallise d'un coup. Impressionnant. Et là, maintenant, c'est dur, quoi. Regardez, on peut la prendre. Coup, ouais, c'est chaud.
Quelle température?
Mets ton doigt dedans.
Ça va?
Tu mets ton doigt dedans. Non, c'est trop dur. Hein.
On dirait de la bougie, ouais.
Ah ouais,
de la bougie, mais vraiment.
Hein, impressionnant. Alors que deux secondes avant, t'imagines?
Rien,
peut-être, mange pas, peut-être pas. Hein. Attends, même si on appuie fort. Ouais.
Ah,
voilà, petite expérience. T'as vu, c'est de la glace chaude.
C'est marrant, ça.
Comme des petits dingues. Hein.
Super.
Donc du coup, la glace sur mon tour du monde, vous me proposez de la transformer pour m'en faire des bouillottes.
Exactement. Tu sais que c'est le système des petites bouillottes qu'il y a parfois. On craque un truc et ça se met à faire des choses. C'est pratique pour les tours du monde.
D'accord.
C'est pour ça qu'on voulait te montrer ça. Je vais vous donner la recette si vous voulez le faire. Venez en retournant au plateau. Alors, ça chauffe de plus en plus apparemment.
C'est de plus en plus chaud. Ouais, ouais.
C'est de plus en plus
dur aussi.
Si vous voulez le faire chez vous, c'est de l'acétate de sodium plus de l'eau. Il faut faire un petit mélange. Vous regardez sur internet, il y a plein de recettes. Et en fait, ça donne envie. En fait, ça a envie de devenir solide parce qu'il y a trop d'acétate dans l'eau. J'ai noté le truc pour comprendre. Donc, on rajoute un peu d'acétate. Vous avez vu le petit. Comme du gros sel qu'on met dessus. Ça casse l'équilibre et du coup, ça redevient solide. Là, c'est liquide. Il y a deux minutes. Et là, c'est complètement solide, quoi. C'est impressionnant quand même.
C'est un peu le vinaigre.
Et après, si tu le fais bouillir, et ben voilà, si on fait chauffer, ça redevient liquide. Et c'est le principe des petites chaufferettes qu'on achète en supermarché.
Donc, c'est réutilisable.
C'est super pratique.
Voilà, monsieur. Et ben merci beaucoup. Gonel Breton, vous pouvez le suivre. Je rappelle une dernière fois les sites pour le suivre. Gardezlecap.global, c'est le site pour le suivre en direct avec les balises, etc. Et vous montrer en direct où il sera. L'Insta, rien que du bonheur, si vous voulez rajouter qu'un point entre chaque mot. Les gueules cassées. Et voilà, rien que du bonheur, c'est ton association. Merci beaucoup, Gonel.
Merci, c'était rien que du bonheur.
Bon courage, on essaiera de te suivre le plus régulièrement possible. Ça va vraiment nous faire kiffer de se dire que t'es là aujourd'hui, tu pars en vélo jusqu'au Japon. C'est que le début. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine dans le QG.
Ciao.